chandail sans pantalon sur Twitch.
Je refuse la sexualisation de la femme.
Ah, ça tombe bien, Marceau aussi.
Marceau le midi.
Ça se réchauffe, les amis, sur Québec. Actuellement, c'est un 3 degrés comme température ressentie. Ensoleillé, maximum de plus 4 pour aujourd'hui. On est gâtés quand même, c'est plein soleil, beaucoup de lumière. Demain, mardi, généralement ensoleillé avec un maximum de plus 5. De la pluie en soirée avec un minimum de plus 4 degrés. Mercredi, ce serait les averses avec un maximum de 14. Jeudi, nuageux avec un maximum de 17. Et vendredi, ce sera des averses avec un maximum de 16 degrés. Se passe quoi que ce soit sur la route, vous avez des choses à nous dire. C'est le 418-971-1021. Vous voulez participer à l'émission, vous avez des commentaires. Ben, ce texto-là, gardez-le en mémoire. 418-971-1021, ça sert à ça. Si vous avez des questions aussi pour nos invités, ben, vous êtes toujours les bienvenus à les poser. Puis bien souvent, si c'est des questions pertinentes qu'on n'a pas posées pendant l'entrevue, bon, on les passe aussi, vos questions. On fait de la radio pour vous autres.
As-tu parti ton chauffage, toi?
Je l'ai parti pour les filles à la maison. Les gars, seul, ouais. Tu vois, quand ils se sont couchés hier, il devait être 8h15. J'ai regardé dans leur chambre. C'était un genre de 19-20. Fait que pour dormir, c'était confortable. Okay. Les filles, eux autres, 21-22. Il y en a une qui met ça à 27.
Oui, mais elles sont dans le sous-sol aussi. C'est plus frais.
Non, mais elle a l'impression, je ne sais pas pourquoi. Je sais que toutes les jeunes qui arrivent en appartement ont cette impression-là. Les jeunes ont l'impression qu'ils mettent ça à 32. Puis que ça va être plus chaud, ça va être plus rapide au niveau de la chaleur.
Moi, j'étais un peu ce genre-là. Mettons, là, c'est 16, puis je veux que ça soit à 20.
Tu mets ça à 25.
Je peux mettre ça à 25, puis après ça, je veux rester. Je sais pas pourquoi. C'est comme si tu mettais l'eau high. Tu mettais ton chauffage dans le piton dans ton auto.
Mais si tu le mets à 22, il va monter rapidement jusqu'à 22, puis il va rester à 22.
Oui, t'as raison, on s'habitue. Mais je suis arrivée chez nous, il faisait 13 hier.
13? Dans le logement?
Parce que c'était à 5, là. Tu le mets à 0 l'été, là. Tu veux pas chauffer quoi que ce soit. 13, là? Welcome back in Quebec City.
Fait qu'en fin de soirée, après ta douche, t'étais avec tes bigoudis puis ta grosse...
Mon gros pyjama en flanelette.
Ton gros pyjama puis tes grosses patoufles.
Mes grosses patoufles.
Les vieilles filles, c'est ça.
Mon petit coussin chauffant, plugué dans le plug.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables est au bout du fil. Salut, Nick.
Bon midi à vous deux.
Non, toi, tant qu'à être dans le sujet, là, tu mets ça à combien, tes calorifères chez vous?
Écoute, au moins à 20 en ce moment. En fait, j'aimerais dire 20, mais on est en rénovation chez nous. Fait que pour l'instant, les calorifères fonctionnent à moitié. Fait qu'ils commencent à faire un peu frais chez nous, considérant qu'il fait 5 dehors.
Ouais.
Mais oui, c'est sûr que dès que c'est possible, on met ça à 20-21, puis on maintient ça pour le restant de l'hiver.
Voilà, voilà. Non, mais la nuit, tu peux descendre. Moi, je le fais descendre la nuit là, pour économiser d'électricité. Puis le jour, quand il y a du monde à la maison, je laisse ça tout le temps à 20-22.
Ça fonctionne ça encore, parce que ouais. Ça va remonter quand même. Est-ce que la variation... Il y a du monde qui éteignait leur moteur aussi. Aussi, là, aux lumières rouges là, de voiture.
Ouais, ça, c'est déjà un peu bizarre. Là. Mais si ton char le fait, ça, c'est parfait. Mais si toi, tu le fais intentionnellement, c'est un peu c'est un
la
peu
nuit,
fucky.
Tu te colles. Ouais, t'es dans ton vortex de couverture. Je comprends.
Ouais, exact. OK. Hey, des choses à te jaser, Nick, si tu le veux bien. Chef conservateur Pierre Poilievre qui promet d'éliminer la TPS de 5% sur la vente de maisons $1 million et moins. Je trouve que c'est une belle idée, mais qui, concrètement, exemple pour la région de Québec, servirait absolument à rien. Il n'y en a pas de nouvelles maisons. Il n'y en a pas de maisons de disponibles. Si toi, demain matin, tu es à Québec et tu veux vendre ta maison, tu vas avoir comme 20 acheteurs.
Effectivement. C'est pas énorme comme marché, on s'entend. Là.
Mais ailleurs, je ne sais pas au Canada, qu'est-ce que ça pourrait être, mais pour, mettons, une maison de 800 000 là, ou un condo de 800 000, tu pourrais économiser 2 200 par an en paiement hypothécaire avec ce que le chef conservateur veut mettre en place, soit d'éliminer la TPS de 5% sur la vente de maisons de $1 million et moins.
Oui, bien, c'est quand même assez intéressant quand même qu'on regarde ça parce qu'en supprimant la taxe de la vente fédérale, on s'entend que dans certaines régions, comme mettons à Québec, peut-être que l'impact serait peut-être pas aussi intéressant qu'ailleurs. Mais si on l'élimine présentement, il y a quand même certaines familles qui pourraient économiser jusqu'à 50 000 $ sur l'achat d'une nouvelle maison. Ça, c'est selon les estimations que le Parti conservateur a fournies dans leur communiqué de presse qu'ils ont relâché avec la fameuse promesse d'éliminer la fameuse TPS sur les maisons neuves de moins d'un million de dollars. Mais dans le fond, ce qu'ils disent, c'est que ça pourrait aussi avoir un impact intéressant au niveau de la nouvelle construction en termes d'incitatifs. Donc, oui, ça serait une réduction d'impôts pour les nouveaux acheteurs, mais au final, ça aurait un impact au niveau des nouvelles constructions qui permettrait d'augmenter de 30 000 maisons par année le nombre de nouvelles constructions au Canada. Ce qui est quand même non négligeable quand même quand on constate aussi la crise de l'accès à l'habitation, la crise de l'accès au logement qu'on traverse depuis quand même déjà quelques années et qui semble pas vouloir s'améliorer. Fait que c'est sûr que c'est pas non plus la solution la plus miraculeuse qu'il y a pas, mais c'est définitivement quelque chose qui est intéressant, ne serait-ce que pour s'assurer de permettre aux familles d'économiser quand ils deviennent nouvellement propriétaires.
Parce que la crise du logement, j'ai toujours pensé que c'était pas mal l'histoire des municipalités. C'est à eux de gérer ça. Je regarde la grandeur du Canada pour le Trésor public. Ça pourrait coûter entre 3,3 milliards de dollars et 4,5 milliards de dollars. Mais quand Bruno Marchand s'est fait critiquer par Pierre Poilievre, quand il s'est fait traiter d'incompétent et tout ça, quand il y a des hommes et des femmes d'affaires qui sont sortis à Québec en disant « Caroline, des permis de construction ou des permis de rénovation, c'est compliqué à la Ville de Québec. C'est tout le temps des délais à n'en plus finir. Montréal, c'était une catastrophe. » Tout d'un coup, à Québec, ça a commencé à super bien aller. Et très rapidement, quand les hommes et les femmes d'affaires qui sont en immobilier voulaient demander des permis, ben c'était analysé hyper rapidement puis octroyé rapidement. Ça va aider beaucoup, là, plus que ce que le fédéral pourrait faire, là.
Ben effectivement, on s'entend que tu sais le fameux brassage de cage qu'a fait Poilievre quand il a traité les maires du Québec d'incompétents, mettons que c'était un peu particulier quand c'est arrivé, on s'entend, ça avait comme provoqué quand même beaucoup de réactions dans les médias. Mais peut-être que ça a provoqué un peu de réaction chez même certains de nos dirigeants municipaux qui ont réalisé que peut-être que ça n'a pas de bon sens que ça prenne quasiment un an et demi avant qu'un permis soit octroyé. Puis c'est la réalité à Montréal. Entre autres, si vous avez, par exemple, des rénovations de prévues ou si vous avez un agrandissement que vous avez prévu pour votre logement ou peu importe, on parle vraiment de délais de plus de 6 mois et un an et plus. Des délais qui sont totalement ridicules et au final, ça fait en sorte que il y a des familles qui sont prises dans une situation qui ne peuvent pas, vraiment utiliser leur propriété à son plein potentiel. Puis il y a même beaucoup de promoteurs qui peuvent juste pas construire à cause de ça. Donc, des fois, on se dit, on veut pas plus d'étalement urbain parce qu'on parle à ces différents maires, ces différents conseils municipaux, l'étalement urbain, ça ne fait pas partie des solutions. On parle de densification. Puis après ça, quand on arrive à augmenter le nombre d'offres, ou du moins l'offre de nouvelles habitations dans les villes, on bloque ça avec la panoplie de paperasse puis de bureaucratie qui empêche ces permis-là d'être octroyés rapidement. Donc, c'est le fun que Québec y aille allumer. À Montréal, je me demande ce que ça va prendre. On sait que Valérie Plante est pas mal sur sa dernière année. Puis on a hâte de voir s'il y a des solutions qui vont arriver d'ici ce temps-là. Mais il n'en reste que, tu sais, au final, quand on regarde la décision qui a été, du moins la promesse du Parti conservateur, c'est aussi en réaction à une réalité qui est assez importante dans d'autres provinces, par exemple, parce que le Centre canadien d'analyse économique, il estime, selon eux, que les taxes représentent environ 31% du prix d'achat d'une nouvelle maison en Ontario. Donc, on parle vraiment des taxes autant provinciales que les taxes de vente harmonisées, la TPS et tous les autres types de taxes, tant municipales que l'ensemble du coût fiscal d'une nouvelle maison, c'est 31%. Donc, on s'entend qu'avec les maisons qui ont presque doublé en termes de valeur au courant des 5-10 dernières années, ne serait-ce que de donner une forme d'allègement de 5%, ça peut faire quand même une bonne différence. Maintenant, est-ce qu'au Québec, ça va avoir un impact important? On verra en temps et lieu. Il faudrait d'abord que la politique se mette en place. Et pour ça, on sait que ça va prendre un gouvernement conservateur parce que, pour l'instant, Trudeau ne semble pas vraiment s'engager dans cette direction-là.
Nicolas Gagnon, tu es de la Fédération canadienne des contribuables. Tu habites dans le secteur de Laval, tout juste à côté de Montréal, et tu côtoies des hommes et des femmes d'affaires. Est-ce que ça a été bien reçu, le fait que Valérie Plante, en sortant dans les médias la semaine dernière, dire « Moi, c'est mon dernier mandat, j'en ferai pas un de plus », les gens étaient-tu contents qu'elle quitte?
C'est une bonne question. C'est assez divisé parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on a vues sortir dans les médias qui faisaient les louanges de Mme
Plante. Mais ça, peux-tu vraiment compter là-dessus pour te faire une idée? Là, quand quelqu'un est mort, là, on oublie tous ses défauts puis on parle juste de ses qualités.
Ben, c'est ça. Ben, dans le cas de Valérie Plante, il faut quand même rappeler que, personnellement, d'un point de vue de la Fédération canadienne des contribuables, nous, on pense sincèrement que 8 ans de service pour Montréal, c'est quand même beaucoup. Là, on s'entend que de travailler 8 ans, ne serait-ce qu'en tant que vous soyez un premier ministre ou un maire, c'est beaucoup de travail. On ne va pas dire le contraire. Par contre, les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. Quand on regarde l'état des finances de la ville de Montréal, quand on regarde l'état de la sécurité à Montréal, l'état des infrastructures, les taxes qui ont augmenté à répétition, à quel point est-ce qu'on est rendu on ferme des rues, on transforme des rues en rue piétonne, littéralement, ce qui fait en sorte qu'on a un paquet de commerces qui ont de plus en plus de difficultés à arriver parce qu'ils perdent beaucoup d'achalandage. Le milieu, des affaires à Montréal, je dirais pas qu'ils ont fait le party quand ils ont appris que Mme Plante s'en allait parce que veut pas. C'est pas parce que Madame s'en va que nécessairement la suite va être nécessairement plus intéressante, parce que ça, c'est surtout de l'élève présentement qui va être la personne qui va succéder à Valérie Plante. Est-ce que ça va être quelqu'un de Projet Montréal ou est-ce qu'il y a un autre parti politique qui va débarquer puis qui va amener des solutions intéressantes pour justement accélérer les chantiers de construction à Montréal? Ça, c'est pas mal un des enjeux clés, je dirais, pour les prochaines années. C'est non seulement le nombre incroyable de cônes orange que sur l'île de Montréal, mais aussi le nombre de chantiers de construction sur lesquels, on ne voit jamais personne travailler. Là. C'est des chantiers qui s'éternisent depuis des années. Je regarde les commentaires qui ont été faits, entre autres, par François Lambert, là, qui est un entrepreneur bien connu, qui a fait plusieurs passages dans l'œil du dragon. Lui-même, là, je pense qu'il a été assez incisif sur ces éléments-là. Donc, et ça représente pas mal le sentiment partagé d'une bonne partie de la population. Donc, c'est sûr que quand on regarde les sondages aussi, pas loin de 50% des Montréalais espéraient que Mme Plante ne renouvelle pas son mandat. Il y avait comme une pression un peu populaire, puis une pression du milieu des affaires sur Mme Plante. Et il y a aussi, faut le dire, que 8 ans de service, c'est quand même pas rien, même si on n'aime pas, même si idéologiquement parlant ou même d'un point de vue pratique, on n'aime pas les résultats, d'un point de vue plus, humain, on comprend que ça vient avec un poids assez lourd puis qu'éventuellement on veut s'en débarrasser ou laisser quelqu'un d'autre s'en charger. Par contre, je pense que l'histoire va être un petit peu sévère du bilan de Mme Plante, qu'on regarde l'augmentation de la dette de Montréal puis des taxes et à quel point la situation de Montréal s'est pas améliorée depuis qu'elle est entrée en poste.
Mais j'ai des questions pour vous, les gars, par rapport à Valérie Plante. J'ai l'impression qu'elle a tellement été critiquée négativement, mais justement, elle a été capable d'être longtemps en politique. Je ne l'ai pas compris, moi, ce mouvement-là. On dirait que tout le monde faisait avec le fait qu'il ne la trouvait pas compétente pour être dans ce poste-là. Je trouvais que majoritairement, les critiques étaient négatives ou encore j'ai manqué décidément d'imprégner. Tu sais, j'ai pas été assez imprégnée par le pouls montréalais là-dedans. Là.
Ta question, c'est quoi?
Mais c'est de savoir pourquoi est-ce qu'elle a été aussi détestée, mais aussi longtemps à la tête de la ville.
Je pense qu'elle est juste tombée dans un gap. Là. Coderre, elle voulait se représenter. Les gens étaient tannés de Coderre. Elle s'est présentée. Elle était rafraîchissante. Tout le temps, le beau grand sourire, s'exprimait bien. C'est une bonne porte-parole. Quand on lui donne un dossier, elle est capable de le résumer quand même assez rapidement. Fait qu'au départ, ils l'ont essayé. Puis si tu regardes son deuxième mandat, le taux de participation est extrêmement bas.
C'est encore Denis Coderre qui se présentait.
Puis, c'est-tu Coderre qui s'essayait?
C'est représenté contre elle.
OK, c'est Coderre qui voulait se représenter.
Son slogan, c'était « compétent ».
Fait qu'il se disait, tant qu'à être avec Coderre encore, on est aussi bien de la garder elle. Et moi, c'est ce que j'entendais, c'est que... Puis même, j'ai entendu le maire Ferrandez, là, qui était le meilleur ami de Valérie Plante dans le temps. Là. On pensait que c'était sa dauphine. Il a dit, Valérie Plante, pour un troisième mandat, aurait dû couper énormément dans la fonction publique, dans son administration municipale. Ça, on parle pas de centaines d'emplois. Ce que le maire Ferrandez a dit, on parle de milliers d'emplois. Puis ça, visiblement, elle ne semblait pas capable de le faire ou de vivre avec ça.
Non, et pour ça, c'est quand même quelqu'un qui a un background en tant que gestionnaire, quelqu'un qui est allé à l'ENAP, l'École nationale d'administration publique. Donc, tu sais, autant qu'on peut reprocher le bilan de Mme Plante, elle avait quand même les compétences pour occuper sa fonction. Puis en 2017, elle a veut pas, elle a un peu profité de la fatigue à l'égard de Denis Coderre, qui était maire depuis 2013, puis donc il y avait eu un paquet de scandales, dont la fameuse Formule E à Montréal, où est-ce qu'on avait carrément donné des billets aux gens pour qu'ils se pointent, puis ça avait coûté plus d'argent qu'autre chose. Fait que ça a été un scandale qui l'a suivi, qui a mis fin à ses ambitions de réélection à la tête de Montréal. Puis après ça, en 2021, on se rappelle, il y avait le contexte de la pandémie, il y avait aussi le contexte d'une faible participation. Puis en 2021, le retour de Denis Coderre n'a pas été très intéressant ou pas été bien vu par les électeurs à Montréal. Donc, les gens sont réfugiés vers la valeur sûre qui était Valérie Plante à ce moment-là. Maintenant, c'est sûr que quand on se dit que le prochain mandat va être beaucoup moins intéressant pour Mme Plante parce qu'elle aurait été prise effectivement à prendre des décisions extrêmement impopulaires, éventuellement à force de dépenser puis à faire des projets, que ce soit des pistes cyclables ou des projets d'enverdissement du parc Jean Drapeau qui vont coûter pas loin de 350 millions ou de piétoniser la voie Camillien-Houde qui finalement va coûter pas loin de 90 millions. Tu sais, c'est des dépenses que finalement t'es comme, c'est pas tant prioritaire quand t'as des gens qui ont la difficulté à se trouver un logement ou à faire construire un bâtiment ou ne serait-ce que commercial sur l'île. Et là, on voit ça, toutes les dépenses de la ville, on voit les comptes de taxes augmenter et on voit pas non plus une amélioration au niveau des services aux citoyens ni de la qualité des infrastructures ou des programmes en général. Ce qui fait en sorte que les gens, ils sont un petit peu lésés, on le voit, et inévitablement, Valérie Plante aurait dû faire des choix très difficiles pour son quatrième mandat pour justement ramener de l'ordre dans les finances de la ville. Et je veux pas dire qu'elle aurait peut-être pas voulu assumer cette responsabilité-là. On verra ce qu'il en est pour son successeur ou sa successeur, mais une chose est sûre, peut-être qu'elle quitte au bon moment en sachant que les mauvaises nouvelles s'en venaient autant pour elle que pour les Montréalais et que c'est peut-être mieux de laisser quelqu'un d'autre s'occuper avec la tempête qui s'en vient.
Tu sais, Denis Coderre est arrivé 2013-2017, mais juste avant, souviens-toi, là, Gérald Tremblay qui se fait pogner avec son administration, Michael Applebaum qui est dans la corruption à
Michael
côté.
Michael Applebaum, j'avais oublié!
T'es envoyé en prison carrément, là.
Oui.
C'est rien de moins. Puis la ville de Montréal était quasiment mise sous tutelle.
Les gens avaient besoin de quelqu'un de positif et qui avait l'air plus humain. Peut-être, oui.
Ben effectivement, puis il faut se rappeler, Valérie Plante, quand c'est présenté en 2017, les pancartes partout, c'était l'homme de la situation. C'est carrément comme ça qu'elle s'est lancée. Donc, on peut dire ce qu'on veut, mais au niveau de sa campagne de marketing, elle a vraiment été capable de rejoindre l'électorat moyen assez rapidement à Montréal.
Ça passerait-tu encore?
Non, mais on dit qu'elle a juste fait une erreur. C'est elle qui a écrit l'homme de la situation. Elle était juste mêlée cette journée-là encore. Hein?
Mais il en reste, est-ce que ça passerait encore? Tout ce que j'ai à dire, c'est, mettons qu'elle déciderait de faire, c'est vous quoi, guys, je vais rester pour un troisième mandat.
Ouais.
Je dirais qu'en politique, c'est toujours en fonction de c'est quoi qui va être offert de l'autre côté de la table. Parce que s'il n'y a pas vraiment d'opposition, s'il n'y a pas de candidats, là, on sait qu'il y a certains noms qui circuleraient présentement. Il y a des gens qui proposent des noms de ministres libéraux présentement là, à Ottawa qui pourraient peut-être être intéressés à venir à Montréal plus tôt. Il y a Mélanie Joly que peut-être qu'elle serait intéressée. Il y a aussi là, Luc Poirier qui est l'entrepreneur là, dont il est connu parce qu'il est dans le milieu de l'immobilier, mais aussi connu pour le fameux terrain de Northvolt. Ben lui, il serait intéressé apparemment. Est-ce que si Valérie Plante se représentait et se retrouvait contre des pointures de ce type-là, soit des gens plus connus ou plus appréciés ou du monde du milieu des affaires qui ont un peu plus de connexions, peut-être que la game serait différente pour elle dans le cas d'une troisième élection.
Écoute, juste avant de passer au prochain sujet, j'ai parlé avec Luc Poirier au téléphone il y a de ça quelques jours. Par la suite, je l'ai eu en entrevue dans Mars au soir. Il m'a confirmé au téléphone que non, c'était une bulle qui avait passé.
C'était une bulle qui avait passé.
C'est lui qui m'a dit ça, OK, que c'était une bulle qui avait passé. Mais si tu veux mon avis, je pense que Luc Poirier, en tout respect pour lui, c'est quelqu'un qui aime beaucoup voir son nom dans les médias.
Ah non, il nous faut pas des candidats de
mais on a un, comment il s'appelle l'autre, là,
François Lambert.
François Lambert, qui est sensiblement la même chose.
Je sais pas si on peut les comparer, parce que peut-être qu'on insulte un puis on insulte l'autre.
Luc Poirier est plus riche. Luc Poirier est certainement plus riche que François Lambert, mais les deux aiment ça beaucoup, se voir et s'entendre. Je pense que c'est une petite bulle qu'on avait laissée aller du côté de Poirier, puis que finalement, très rapidement, là, il a décliné l'offre. Non, non, merci, mais dans le fond, il n'y a personne qui avait offert. T'sais. Hey, on termine avec ça, Nick. Le gouvernement du Québec qui veut geler les embauches dans la moitié là, de la fonction publique. Pourquoi on ne parle pas d'austérité? Pourquoi c'est si dur de parler de ça, de la CAQ pour l'austérité?
Ben, le mot austérité, c'est un mot qui est utilisé dans toutes les sauces, qui est souvent utilisé plus pour critiquer les politiques que pour vraiment expliquer un fait. L'austérité au Québec, en réalité, on ne l'a pas observé depuis les années 90. Même dans le temps de Philippe Couillard, il y a une réduction des dépenses qu'on avait observée, mais elle est extrêmement temporaire parce que on s'en est suivi d'un réinvestissement assez important, tant en santé qu'en éducation, sans faire la défense nécessairement du gouvernement à l'époque. Ceci étant dit, jeudi dernier, on a eu comme un communiqué qui a été publié en fin de soirée où est-ce qu'on apprenait finalement que le gouvernement du Québec s'engageait à ne plus recruter de nouveaux fonctionnaires jusqu'à nouvel ordre et ça à compter du 1er novembre prochain. pour l'ensemble de la fonction publique québécoise. Ceci étant dit, je pensais que c'était effectivement pour l'ensemble de la fonction publique, puis j'ai corrigé en disant la moitié. Pourquoi la moitié? Parce que sont exclus du gel Hydro-Québec, Investissement Québec, la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, l'Assemblée nationale, la SAQ et l'Auto-Québec. Donc, on s'entend que ça commence à faire pas mal de groupes qui, finalement, vont pouvoir continuer à faire des embauches malgré tout. Mais ne serait-ce que c'est un bon coup de départ. Parce qu'il faut dire que Mme Lebel, là, qui est la présidente du Conseil du Trésor, disait jusqu'à tout récemment qu'elle refusait là, de s'engager dans une réduction du nombre de fonctionnaires ou même de parler de couper. Là. Donc, elle ne veut absolument pas être identifiée à, d'une quelconque manière à l'étiquette austérité, même si, tant qu'à moi, ce n'est pas une véritable étiquette, puisque pour l'instant, le gouvernement n'a rien annoncé de concret pour réduire ses dépenses qui sont bien plus élevées que ses revenus. Et donc, c'est quand même une bonne nouvelle comme telle. Par contre, plafonner ou mettre fin au recrutement, ne serait-ce que temporairement, c'est bien beau, mais ça n'a pas vraiment un impact très important au niveau fiscal. Fait que j'ai hâte de voir si le gouvernement a véritablement un plan pour réduire le poids de la fonction publique. Il faut rappeler que dans les ministères uniquement, à tous les niveaux, là, le gouvernement du Québec a augmenté de 10 000 le nombre de fonctionnaires juste dans les ministères et organismes. Quand on prend l'ensemble de la fonction publique, c'est 72 000 fonctionnaires de plus qu'on a rajoutés dans la machine depuis 2018. Et le gouvernement s'apprêtait à en rajouter 8 000 de plus d'ici le prochain budget. Donc, on serait à 80 000 fonctionnaires de plus depuis que Legault est arrivé au pouvoir. Veux pas, ça vient avec des dépenses assez importantes. Et c'est des dépenses qui sont récurrentes. Donc, le gouvernement, il essaye de faire le ménage présentement en gelant le recrutement. À quel point ça va être efficace, ça va dépendre si le gouvernement maintient cette mesure-là à long terme, s'il l'applique à d'autres ministères et à d'autres organismes publics, justement comme Investissement Québec, où est-ce que les résultats ne sont pas nécessairement au rendez-vous et malgré tout, on verse des salaires puis on augmente le nombre de fonctionnaires. Donc, on va voir s'il y a un peu de sérieux là-dedans. Mais on va dans la bonne direction en gelant le recrutement. Maintenant, est-ce que le gouvernement aura l'audace d'aller plus loin puis de réduire la fonction publique et de la rendre plus efficace? Ça, c'est une autre question.
On dirait que ça revient toujours au même sujet. Puis là, il y a plein de monde qui commence à donner des noms là, pour, en passant, la gestion de Montréal. Mélanie Joly, c'est vrai qu'autrefois, c'était quelque chose qu'elle convoitait puis qu'elle n'a pas réussi.
Mais elle a un super de beau profil. Au niveau de son CV, il est super, mais c'est parce qu'elle va devoir se défendre de son bilan au fédéral où elle n'a strictement servi à rien.
Bien, elle a sûrement servi à quelque chose, là.
Oui, ben c'est ça. Au début, elle a quand même piloté le fameux ministère du patrimoine avec la taxe Netflix. Bon, c'est pas nécessairement des choses qui ont été...
Mais c'est ça!
Mais elle a récupéré quand même. Tu sais, elle avait perdu avec Netflix, puis comment elle avait envoyé au BAT là, pour Justin Trudeau dans le temps. Là, mais elle a quand même récupéré une crédibilité certaine qu'elle a, mais qu'on n'avait pas mis de l'avant parce qu'on l'avait utilisée finalement en politique.
Okay. Je sais pas. Okay. Mélanie Joly, crédibilité, ça n'a jamais été employé
là,
dans
là,
aucune
vous
des
chiez.
Phrases.
Valérie Plante n'est pas assez ici. Denis Coderre, ça peut pas.
Justin Trudeau non plus.
Ben, François Lambert, non, s'il vous plaît. Justin Trudeau. Là, Mélanie Joly, peut-être qu'à la mairie de Montréal, ça ferait.
Ouais. Non, ça fait. Ça fait les sourires. On n'en veut plus. On veut des gens de qualité, des gestionnaires, hommes comme femmes. Il y avait l'ancienne présidente de d'Hydro-Québec aussi à qui on avait pensé, Sophie Brochu qui serait une bonne candidate. Là.
Sophie Brochu.
Ça, oui, ben tu sais, on manque vraiment pas de bons candidats ou candidates pour Montréal, mais il n'en reste que, tu sais, il va falloir qu'il y en a un qui mette le pied dans la mort éventuellement. Puis pour l'instant, il n'y en a comme pas un seul qui veut le faire. Je pense qu'il y en a plusieurs là-dedans qui veulent attendre de voir ce qui va se passer au fédéral, parce qu'il y a beaucoup de ministres libéraux qui se disent, ah, peut-être que vu que le siège est rendu vacant à Montréal, je pourrais peut-être préparer ma prochaine carrière dans ce coin-là. Mais en même temps, les élections fédérales n'ont pas encore eu lieu. Il y a peut-être des choses qui pourraient se passer d'ici là qui feraient en sorte que les chances que certains conservent leur poste augmentent d'ici octobre 2025. Je pourrais pas dire parce qu'un an, c'est fou ce qui peut se passer en politique en une semaine. Imaginons en un an. Mais on va voir en temps et lieu. Mais Mélanie Joly faisait partie des noms. Il y a aussi Pablo Rodriguez, mais là, il est rendu au PLQ. Donc, certains des actuels ministres libéraux qui sont à Montréal sont peut-être ceux qui sont le plus à observer là, au courant des prochains mois.
Nicolas Gagnon.